Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Alors, je ne sais pas si tout le monde a les feuilles, sinon je peux vous les faire passer pour ceux qui les ont oubliés de les amener. Donc, voilà, c'est sur ces feuilles-là qu'on est en train donc de développer le sujet. 1 Corinthiens 11. Alors, juste, je voudrais faire juste un petit rappel. En fait, ce chapitre est comme quelques chapitres de Paul aux Corinthiens a été l'objet de polémiques. Parce qu'il y a là-dedans quelque chose qui nous a étonné, qui nous étonne. C'est le rôle de l'homme et de la femme dans l'Église, ainsi que le repas du Seigneur. Donc ce rôle de l'homme et de la femme a posé quelques difficultés, alors qu'a priori, le texte lui-même semble être simple quand on le lit. On a l'impression qu'il est vraiment très très simple. Mais quand on rentre dans les détails, on se rend compte que c'est l'un des textes les plus difficiles à comprendre des épîtres de l'apôtre Paul. Et alors pourquoi? Pourquoi ce texte en apparence simple est-il si difficile à comprendre? Et d'abord parce que il y a un contexte qui est extrêmement défavorable. Qui est le contexte de la ville de Corinthe, une ville très idolâtre, une ville qui est complètement vouée ou dévouée au culte des idoles, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas suivre. Et cette église de Corinthe étant plongée dans cette ville, évidemment les personnes qui se convertissaient et qui venaient, donc qui faisaient partie de l'église, malheureusement ces tendances qu'elles avaient n'étaient pas totalement enlevées. Et donc on s'est retrouvé à l'intérieur de l'église avec extrêmement de problèmes, des problèmes notamment liés à l'idolâtrie. Et ça causait beaucoup de problèmes à l'apôtre Paul. Alors, la question qu'on se pose, mais pourquoi nous, à notre époque, ça nous pose des problèmes? Mais parce que ce n'est pas si évident que ça, quand on lit, est-ce que ce texte qui est sous nos yeux est un texte qui est ce qu'on appelle normatif, c'est-à-dire qui est valable, quelles que soient les époques et quelles que soient l'endroit où on se trouve. Est-ce que c'est valable dans le temps et dans l'espace, quel que soit le temps et quel que soit l'espace? Parce qu'il y a des choses quand même assez compliquées. Notamment, il y a déjà au niveau de certaines traductions. Certaines traductions sont plutôt des explications plus que des traductions. Et là, déjà, on a quelques problèmes. Par exemple, ne serait-ce que le mot qui pose problème, le mot de voile. Vous le rencontrez très, très souvent dans ce chapitre-là. Et pourtant, il n'apparaît qu'une seule fois. Dans tout le chapitre, il n'apparaît qu'une seule fois, c'est au verset 15, quand il est dit que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Et pourtant, La version, par exemple, de la nouvelle édition de Genève traduit souvent ce mot, très très souvent, le mot voile revient, alors qu'il n'y figure qu'une seule fois. La Bible souvent, oui, mais surtout la nouvelle édition de Jérusalem. De Genève, pardon. Alors, le problème, en fait, quand on lit, par exemple, le verset 2, le verset 2 qui nous parle, je vous le relis, Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Le mot instruction, par exemple, eh bien, dans l'original, dans le grec, c'est le même mot que tradition. Il est rarement traduit par tradition dans nos versions modernes. Il est traduit plutôt par instruction. Or, si c'est une tradition, ça change beaucoup de choses. Parce qu'une tradition, il y a plusieurs façons de voir les traditions. Il y a des traditions qui sont bibliques et normatives. Alors, quand une tradition est normative, en fait, on n'appelle pas ça tradition, on appelle ça une instruction. Ça devient effectivement une instruction, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la part de Dieu et qui est applicable à tout le monde, quelles que soient les époques. Donc, ce n'est plus une tradition, ça devient une instruction. Mais il y a des traditions qui sont malheureusement locales, c'est-à-dire qui sont valables à une certaine époque et en un certain lieu. Alors, est-ce que ici, le texte que nous avons sous les yeux, est-il normatif, n'est-il pas normatif? Et c'est de là que vient la scission, la division à l'intérieur du corps de Christ. Il y en a qui disent non, c'est normatif, il faut le prendre tel quel, littéralement tel qu'il est écrit. Et il y en a qui disent on ne peut pas le prendre tel qu'il est écrit, parce que le contexte ne s'y prête pas. Et effectivement, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que vraiment, notre texte dépend énormément du contexte dans lequel il se trouve. Et on ne peut pas du tout le séparer de son contexte. Si on le sépare de son contexte, on a perdu tout ce que l'apôtre Paul veut dire. Il y a beaucoup de choses qui deviennent complètement incompréhensibles. Il faut remettre ce texte dans son contexte. Voilà donc l'origine de la division à l'intérieur du corps de Christ. Et on a dit la dernière fois que c'est vrai, notre Église a la compréhension d'un texte qui est biblique, c'est-à-dire qui ne contredit pas la Bible, mais qui n'est pas normatif. C'était vraiment local à l'Église de Corinthe et qu'on ne peut pas l'appliquer tel quel en tout temps et en tout lieu. Et parce que déjà, si on regarde les coutumes, beaucoup de coutumes ont changé. Et même à notre époque, il y a beaucoup de coutumes qui sont valables, qui sont vraies ici, et qui ne sont plus vraies dans d'autres contrées. Et on verra tout à l'heure. Alors, donc, voilà ce que nous croyons. Mais, c'est vrai que nous acceptons, et vraiment c'est un principe d'ailleurs qui est déjà énoncé au chapitre 10, hein, nous acceptons, mais totalement, des personnes qui pensent autrement à propos de ce texte-là, hein, du port du voile pour la femme qui prie, qui prophétise, parce que nous estimons que c'est un tout petit peu comme la question sur les viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire une question qui n'est pas fondamentalement, qui ne remet pas en cause les doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Et donc, si vous faites partie de ceux-là ou de celles-là qui pensent que ce texte, que la femme doit porter le voile quand elle prie ou quand elle prophétise dans l'assemblée, sentez-vous libre, vous n'êtes pas obligé de quitter notre église, vous pouvez y rester parce que nous admettons véritablement nos frères et sœurs qui pensent autrement à propos de ce texte-là. Voilà. Et on a dit aussi que c'était un texte qui n'était pas si facile que ça, qui était difficile. Et on a donné plusieurs exemples. Alors on était arrivé, je pense, dans notre lecture, au verset 6 à 9. Est-ce que quelqu'un... Alors, vous pourrez relire tout, mais disons, est-ce que quelqu'un pourrait ne serait-ce que relire les versets 6 à 9?
Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme.
Alors, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Et nous avons dit que le mot chef, c'est le mot képhalé en grec, qui a donné le mot céphalé en français, qui veut dire tête. Donc toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, non couverte, en fait, hein, là, le mot voile, c'est le mot couvert, couverture. Donc la tête non couverte déshonore son chef, déshonore sa tête. Alors, de quelle tête il s'agit? Est-ce qu'il s'agit vraiment de la tête physique ou de la tête au sens spirituel, c'est-à-dire de, notamment ici, par exemple, pour la femme de son mari, ou pour l'homme de Christ, ou pour l'homme et la femme de Christ, de toute façon. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Alors on a dit qu'il y avait trois interprétations différentes qui étaient données. Donc je vous renvoie à ce qu'on avait vu la dernière fois. Et il y a quand même quelque chose de très curieux. C'est qu'il est question de voile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais le voile que la femme doit porter quand elle prie ou quand elle prophétise. Si cette question de voile avait été vraiment aussi fondamentale qu'on puisse le croire, alors pourquoi ici? Et pourquoi dans l'Ancien Testament et notamment dans les livres de Moïse, il n'est pas question de la femme qui doit être obligée de porter un voile? Pourquoi Moïse, le grand législateur, n'a rien dit à propos de la femme qui prie ou qui prophétise? C'est quand même curieux quand on y pense. Et ça nous donne un peu, disons, le sentiment que cette question est vraiment une question locale. Parce que Moïse n'a parlé que deux fois de... Dans l'Ancien Testament, il est fait allusion seulement deux fois de la femme voilée. Par exemple, lorsque Rebecca, quand elle vient à la rencontre de son mari Isaac, elle n'était pas voilée et quand elle voit son mari, elle se voile. Alors on pourrait dire, la femme se voile devant son mari. Alors si vous pouvez lire Genèse 24, 65... Hein, Genèse 24, 65.
Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit.
Voilà. Donc on pourrait dire, l'attitude correcte et normale et respectueuse de la femme devant son mari, c'est qu'elle doit se voiler. En revanche, il y a un autre exemple, c'est la belle-fille de Judas. Et elle, c'est exactement l'inverse. Elle a été prise pour une prostituée parce que justement, elle s'était voilée. Lisez dans Genèse chapitre 38, versets 14 à 15.
Alors, elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage.
Voilà une femme donc qui va se prostituer qui se fait passer pour une prostituée. Alors, vous voyez, c'est très maigre quand même comme indication vis-à-vis du grand législateur qu'est Moïse. Pourquoi le silence de Moïse à propos du port du voile de la femme, si vraiment cette question était tellement fondamentale, était une marque de soumission de la femme par rapport à l'homme? Pourquoi Moïse n'en parle-t-il pas, et pourquoi même pour l'Ancien Testament n'en parle-t-il pas? En somme, il est impossible de savoir avec certitude ce qui se passait réellement dans l'église de Corinthe. Ce que l'on peut retenir en revanche, c'est que certaines femmes dans l'église, par leur tenue, manquaient de respect. Manquaient de respect et dans l'ordre que Dieu avait établi. Et manquaient de respect aussi par rapport aux coutumes qui prévalaient à l'époque. Parce que les coutumes de l'époque étaient que la femme une femme respectable devait se voiler la tête. Et donc la femme, la chrétienne, qui sortait du paganisme, il y avait là quelque chose de bizarre quand même. Pourquoi elle enlevait son voile? Est-ce que c'était pour elle une façon de dire « je ne suis plus dépendante de l'homme, mais je suis indépendante parce que je suis en Christ. Parce que tous ceux qui sont en Christ sont indépendants. Parce que Christ lui-même a dit que les hommes et les femmes ne vivront plus en tant qu'hommes et femmes, mais vivront comme des anges dans les cieux. Est-ce que les femmes, un groupe de femmes, ont peut-être vu par cette occasion une possibilité, entre guillemets, d'émancipation? Voulaient prouver qu'elles étaient émancipées désormais, qu'elles étaient légales de l'homme, et donc, de ce fait-là, elles avaient enlevé leur voile. En priant et en prophétisant la tête découverte, en fait, elles déshonoraient, au lieu d'honorer leur chef, leur tête, ou leur, disons, au sens spirituel, en fait, elles déshonoraient parce que elle faisait honte d'un point de vue sociétal. D'un point de vue sociétal, c'était une honte. Quelqu'un qui rentrait dans l'église, qui voyait ça, tout de suite, elle faisait le lien, la personne faisait le lien avec ce qui se passait dans le monde et ne voyait aucune différence avec ce qui se passait dans le monde. Et donc, c'était un mauvais témoignage que la femme rendait en se dévoilant. Mais l'apôtre nous dit quelque chose de curieux au verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Voilà encore un verset difficile à comprendre. Pourquoi? Mais parce que quand il est parlé de l'homme par rapport à Dieu ou de la femme par rapport à l'homme, tout de suite il nous vient à la tête le verset 27 de Genèse 1. Lorsque la femme et l'homme ont été créés. Lisez Genèse 1, verset 27.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Voilà, la femme aussi bien que l'homme ont été créés à l'image de Dieu. Il y a quelque chose qui nous surprend ici. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose par rapport au verset 7 de 1 Corinthiens 11? L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Il y a quelque chose qui est nouveau par rapport à Genèse 1, 27. Est-ce que quelqu'un peut dire?
Il y a une différence hiérarchique.
Oui, mais il y a quelque chose, il y a un mot qui apparaît dans 1 Corinthiens qui n'apparaît pas dans Genèse. C'est le mot, bon, l'image, ça, c'est ce qu'on a lu dans Genèse 1, mais la gloire. Pourquoi Paul dit ici que la femme est la gloire de l'homme? C'est bizarre quand même, puisque ils sont égaux, ils ont été créés à l'image, certes, de Dieu. Mais il n'est pas parlé de la gloire de l'homme. Nulle part il n'est parlé de la gloire de l'homme. Voilà un verset qui est difficile. Le mot gloire ne se trouve pas dans Genèse 1, 27. Doit-on comprendre que la femme, son rôle est de glorifier l'homme? Est-ce que le rôle de la femme est de glorifier son mari? Pas du tout. le rôle de la femme comme le rôle de l'homme, c'est de glorifier non pas l'homme, l'homme n'a droit à aucune gloire. Le seul qui a droit à notre gloire, c'est Dieu, c'est Christ. Mais pourquoi l'apôtre Paul ici parle de la gloire? Alors, revenons à la création. Prenons Genèse 2, verset 22-23. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 2, verset 22-23?
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, et chair de ma chair.
Ah, regardez la réaction de l'homme lorsque Dieu lui amène une créature si merveilleuse. Comment il réagit? Il réagit, ah, enfin, voilà celle qui est os de mes os, et chair de ma chair. En fait, l'homme, son cœur, tous ses sentiments, tout ce qu'il a au-dedans de lui est porté vers sa femme. En fait, la femme devient un sujet de gloire par rapport à l'homme. L'homme se glorifie d'avoir une créature à ses côtés aussi belle. Ah, voilà, enfin, celle qui ose me sécher. Et donc, en fait, on pourrait comprendre ici pourquoi Paul dit que la femme est la gloire de l'homme. La femme, en fait, on pourrait comprendre que la femme est un sujet de gloire. Là, oui, c'est vrai. Lorsqu'on analyse la réaction de l'homme, on voit que la femme est un sujet de gloire pour l'homme. Tout comme l'homme, d'ailleurs, est un sujet de gloire pour Dieu. L'homme, la création, la créature humaine, l'homme est un sujet de gloire pour Dieu. Et donc, voilà, c'est une interprétation de ce verset 7, parce que sinon, on ne comprend pas. Le livre de la Genèse ne parle pas de la gloire. Alors, mais il y a quelque chose d'encore plus étonnant au verset 8. On peut le dire, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. En fait, l'apôtre est en train de nous dire que certes, la femme a été tirée de l'homme, mais surtout la femme a été créée à cause de l'homme. En d'autres termes, si l'homme n'avait pas été créé, la femme non plus n'aurait pas été créée. On pourrait, à la limite, imaginer la femme sans l'existence de l'homme, l'existence de l'homme sans l'existence de la femme. Mais Dieu a voulu qu'il y ait l'homme et la femme. C'est une volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est vrai que l'homme aurait pu aurait pu demeurer tout seul, mais tant que l'homme était seul, il était terriblement malheureux. Parce que l'homme Dieu lui a amené beaucoup de créatures, et l'homme disait toujours non. Celle-là ne me ressemble pas. Celle-là ne me ressemble pas. Et lorsque l'homme a vu la femme, la créature, donc la femme, uniquement à ce moment-là, il a été vraiment dans une joie terrible, une joie immense, et ses sentiments ont même dépassé l'entendement. Et d'ailleurs, le diable ne s'y est pas trompé, hein, parce qu'il a bien remarqué comment l'homme avait réagi par rapport à la femme, et il en a profité, le diable en a profité, pour faire chuter l'homme en utilisant la femme. Donc, c'est bien la preuve que la femme est un sujet de gloire pour l'homme. Ce n'est pas que la femme doit glorifier l'homme, non, la femme est un sujet de joie, un sujet, ça fait la joie de son cœur, la joie de son cœur, et j'espère que, en tant que mari, hein, que notre femme c'est la joie dans notre cœur. Bon, c'est vrai qu'on parle de la femme, mais peut-être qu'un jour on parlera aussi de l'homme. Et là, peut-être que, personnellement, peut-être que je serai un peu moins bavard ce jour-là. Mais bon, puisque le chapitre parle surtout de la femme, donc on va rester sur ce sujet-là. La femme est donc la joie du cœur de l'homme. Alors, au verset 10, l'apôtre continue son raisonnement, il dit « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » Encore un verset compliqué. C'est un verset tellement obscur que beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites à propos de ce verset. Qu'est-ce que c'est que ce verset ? Pourquoi ce verset parle des anges ? C'est quand même incroyable. Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être que je parle un peu trop fort. Parce que je parle trop fort là. Parce que j'ai l'impression que ça résonne un peu. Peut-être que je vais parler un tout petit peu moins fort. Qu'est-ce que les anges viennent faire ici, dans cette question de voile ? A priori, ça n'a aucun sens. C'est un verset qui ça complique encore la compréhension de notre texte. C'est pourquoi. C'est-à-dire que tout ce que l'apôtre Paul vient de discuter, sa conclusion c'est que à cause de ce que je viens de dire, la femme doit porter le voile à cause des anges. Parce que les anges, en quelque sorte, nous observent. Pourquoi ici il est question des anges? D'abord, il y a ici un problème de traduction. En lisant donc dans la nouvelle édition de Genève, il y a deux mots qui apparaissent, mais qui ne sont pas dans l'original, dans le grec. C'est le mot « une marque » et le mot « dont elle dépend ». En fait, si on enlève ces deux mots qui ne se trouvent pas dans l'original, non, dans le grec, voici ce que donne le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête de l'autorité. Ah, ça change tout. Elle doit avoir sur la tête de l'autorité. Ça change tout, mais c'est encore un peu plus compliqué à comprendre. Alors, essayons de décortiquer les choses. Rappelons-nous que les cheveux défaits, les cheveux décoiffés, la tête rasée, à cette époque et dans cette région, ça voulait dire une femme de mauvaise vie, une femme prostituée et pire encore, une femme qui pratiquait le culte d'Aphrodite, qui était une prostituée sacrée, consacrée au culte de la déesse Aphrodite. Donc, lorsqu'une femme ne portait pas de voile, en fait, ça voulait dire qu'elle était une femme, entre guillemets, libre, ou plutôt libertine. Une femme qui, on peut même pas dire qu'elle cherchait un mari, mais qui se livrait aux hommes. Une femme qui se livrait aux hommes. Une femme qui se livrait à la prostitution. Une femme qui se livrait au culte des anges, pas n'importe quels anges, les anges déchus. Et ça, par rapport à l'Église, c'est inacceptable. C'est inacceptable dans l'Église qu'il y ait des représentants ou des représentantes du monde déchu, des anges déchus. Et si véritablement les anges nous voient et nous regardent, et c'est bien le cas, puisque nous ne voyons pas, dans ce que dit l'Épître aux Hébreux, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et ils nous regardent et ils sont là effectivement. Quand un homme se convertit, se donne à Dieu, ils se réjouissent, ils font la fête, mais lorsqu'un homme pêche et surtout déshonore Dieu, les anges sont frustrés. Ils sont vraiment dans la tristesse. Et lorsque, ici, en l'occurrence, une femme manifeste par sa tête non voilée qu'elle appartient au monde des anges déchus. Alors, imaginez la frustration des anges de Dieu. C'est une explication. C'est une explication. Est-ce que c'est la bonne ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Personnellement, je crois qu'elle est valable. Elle est valable parce que quand une femme montre par son accoutrement qu'elle veut se livrer aux hommes, en fait, elle est vulnérable. Elle est vulnérable parce que le monde des ténèbres ne cherche que ça. Le péché, le monde des démons ne cherche que ça, justement. Ce monde est friand de la débauche. Et donc, en quelque sorte, c'est une femme qui ne prend pas autorité par rapport à sa confession de foi, qui est de suivre Christ et d'obéir uniquement à Christ. Par rapport à cette confession de foi, cette femme déshonore son chef, qui est Christ, et qui est son mari, en l'occurrence aussi. Et donc, le monde déchu cherche des femmes ou des hommes aussi qui se livrent à la débauche, à la prostitution. C'est une, en quelque sorte, mais ce n'est pas une garantie, on ne va pas dire une garantie, mais en tout cas un moyen de protection quelque part quand une femme avait la tête voilée. Cela voulait dire, je ne suis pas du monde déchu, j'appartiens ou j'obéis, je suis une femme respectable. C'est un peu, au jour d'aujourd'hui, on pourrait comparer ça un peu à porter une alliance. Quand un homme ou une femme porte une alliance, déjà on sait, ah, c'est un homme ou une femme mariée, on fait un peu plus attention. Bon, c'est tout à fait relatif. Au jour d'aujourd'hui, ça ne refroidit pas tellement, hein, quand un homme ou une femme porte une alliance. Mais quelque part, voilà, c'est un tout petit peu ça. Elle porte quelque chose sur sa tête, donc elle n'est pas, c'est pas une prostituée. C'est une femme respectable. Est-ce que ce verset veut dire ça? Moi, personnellement, je pense que oui, par rapport aux anges qui nous observent. Alors, nous hommes, hein, les maris pourraient se dire, oh, mais l'apôtre Paul nous a donné ici une occasion de pouvoir, comment dire, régner sur nos épouses, de pouvoir même négliger ou, quelque part, ne pas donner tout l'honneur dû à nos frères, à nos sœurs en Christ, parce qu'il dit, l'homme, c'est pas la femme qui a été tirée, c'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme qui a été tirée de l'homme, ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Oh, merci. Merci l'apôtre Paul. Ça aurait tendance à nous donner des libertés par rapport à nos sœurs en Christ, des libertés mal placées. Et donc l'apôtre Paul va un tout petit peu désamorcer la bombe en disant au verset 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Donc, en d'autres termes, respectez vos sœurs en Christ parce que elles sont vos égaux. La femme est l'égale de l'homme. Et aussi parce qu'il y a une interdépendance. On ne peut pas concevoir la femme sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Et il y a une interdépendance. Et d'ailleurs, plus tard, plus loin, hein, on verra par exemple au chapitre 12 que dans l'Église, aussi bien les hommes que les femmes sont indispensables, chacun, chacune, dans son rôle. Et donc, il n'est pas question, l'apôtre Paul prend un tout petit peu le devant en disant, ce n'est pas une licence que je donne au mari, mais plutôt un moyen de mettre leurs frères et sœurs en considération parce que vous êtes interdépendants les uns des autres. On ne peut pas concevoir l'homme sans la femme, ni la femme sans l'homme. Donc, il amortit un tout petit peu le choc provoqué par les versets 7, 8, 9 et 10. Alors, il continue en disant, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Encore, l'apôtre revient sur cette question. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voilà le seul endroit où le mot voile apparaît. C'est ce que je viens de lire. La chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Est-il convenable? Voilà un mot très intéressant. Pourquoi? Et parce que finalement, on comprend pourquoi l'apôtre Paul donne toutes ces instructions. Parce que ça fait l'ordre, c'est dans l'ordre des convenances, c'est-à-dire de la bienséance. Effectivement, dans l'Église, tout doit être fait avec bienséance. Aussi bien l'homme que la femme doivent se comporter avec bienséance, avec de manière à respecter, à ne pas choquer la susceptibilité, la pudeur des uns et des autres. Par notre attitude ou notre accoutrement, nous ne devons ni choquer la bienséance de notre entourage, ni dénaturer l'image de ce que Dieu a créé. C'est ce que dit l'apôtre Paul ici. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous ne devons pas dénaturer ce que Dieu a créé. Nous ne devons pas choquer nos frères et sœurs en Christ, pas plus que ceux qui sont dans le monde. Nous ne devons pas choquer, avoir un comportement, un accoutrement, parce que en fait, par notre accoutrement, par notre façon extérieure d'être, en fait, nous envoyons un signal aux autres. Notre accoutrement n'est pas si innocent que ça, hein. C'est un signal qu'on envoie à l'extérieur. Et ce signal ne doit pas être choquant. Voilà ce qui est enseigné dans toutes les églises. Et voilà, enfin, le point sur lequel les chrétiens s'accordent. Tous les chrétiens, qu'ils soient de ceux qui sont favorables au port du voile de la femme ou ceux qui disent que ce n'est pas quelque chose d'aussi important que ça, tous nous sommes d'accord sur un fait, c'est que par notre accoutrement, par notre façon d'être, nous ne devons pas choquer la bienséance. Alors, justement, à propos de la bienséance, cette notion est une notion purement locale. Voilà pourquoi ça me conforte un peu dans l'idée que le texte que nous avons sous les yeux est vraiment local. La bienséance, est-ce que nous savons que ce qui est bienséant en France, par exemple, n'est pas bienséant en Afrique et vice-versa? Je vais vous donner un exemple. Et selon donc les régions, et aussi dans le temps, parce que les habitudes changent. Par exemple, chez moi, hein, dans mon pays, au Congo, une femme qui, du temps de mes grands-parents, les femmes ne se couvraient pas la poitrine. Elles avaient la poitrine nue. Et ça ne choquait absolument personne. C'était normal. Et puis, petit à petit, avec un tout petit peu l'occidentalisation, on arrive à la période de mes parents. C'était un tout petit peu différent. Il y avait une petite gêne. En revanche, quand une femme allaitait, par exemple, elle avait le torse complètement nu. Moi, ma mère, quand elle allaitait mes frères et sœurs, elle avait le torse complètement nu. Et ça ne choque personne. Ce n'était pas du tout du voyeurisme. Mais maintenant, en Afrique, c'est comme ici. Une femme ne peut pas avoir le torse nu. Parce que c'est choquant. Parce que ça choque tout le monde. Vous voyez ? Donc, selon les époques et selon les régions, la notion de bienséance n'est pas tout à fait la même. Donc, ici, à Corinthe, en tout cas, à cette époque-là, il était très mal vu pour une femme de ne pas avoir quelque chose sur la tête. C'est pas un foulard, un voile, quelque chose. Mais de notre temps, et dans nos latitudes, si j'ose dire, ah, ça ne change pas tellement qu'une femme ait la tête découverte. Pas du tout. Ce n'est pas une marque, ce n'est pas un symbole de non-respect ou d'une femme dévoyée ou quelque chose comme ça, pas du tout. Bon, il y a d'autres choses qui sont des symboles choquants. Et dans l'Église, c'est vrai que nous devons faire attention. Mais certaines choses ne sont plus du tout choquantes. Chez moi, par exemple, il est choquant qu'une femme et un homme puissent aller à la plage ensemble et être en maillot de bain, en tenue presque nue, etc. C'est pas possible. C'est très choquant. Mais ici, on va sur les plages de Biarritz ou de Bayonne. Non, ça choque personne. Ça choque absolument personne. Donc, vous voyez, c'est pas si évident que ça. Cette épître, en fait, est compliquée. C'est compliqué. Mais, et c'est ça pour moi le plus important, alors on peut tout oublier de ce que j'ai dit, mais surtout ne pas oublier les points qui vont suivre, les points C et D. Alors si on peut aller dans ce que je vous ai donné, les points C et D, vous pouvez tout oublier, sauf ces deux points-là. Parce qu'en réalité, et c'est quelque chose moi qui m'a vraiment fait beaucoup de bien, en préparant cette étude-là, c'est qu'en réalité, nous avons là, sous nos yeux, bien plus qu'une question de voile ou de longueur de cheveux. Nous avons quelque chose de profond, de très, très, très profond. En fait, le couple homme-femme est une image de l'union de Christ avec Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul veut, en fait, nous dire ici. C'est que essentiellement, dans l'ordre de Dieu, le couple homme-femme est un modèle de l'union de Christ avec Dieu. Regardez par exemple, alors prenons ce petit tableau. Déjà, l'origine. Regardez, la femme est tirée de l'homme à la création. Nous connaissons les versets, nous venons de les lire. Et il est dit, en Hébreu 1.5, le Fils est engendré du Père. Vous vous rappelez, je ne sais pas, quelqu'un peut lire peut-être le Hébreu 1.5.
Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils.
Voilà, le Fils est engendré du Père, mais quand ? Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Éternellement. De toute éternité, et ça pour nous c'est un mystère évidemment. de toute éternité, le Fils est engendré du Père. L'homme est tiré, la femme est tirée de l'homme. Mais continuons. Au niveau de l'égalité, la femme et l'homme sont égaux. Nous l'avons vu tout à l'heure. Le Fils et le Père sont également égaux. Alors, je vous laisse, parce que le temps passe un tout petit peu, lire les versets chez vous. Mais continuons, dans l'unité, l'homme est uni à la femme et la femme est unie à l'homme. Ils sont une seule chair. Genèse 2, 24. Et les deux deviendront une seule chair. Et de même, le Père est uni au Fils et le Fils est uni au Père. Ils sont un. Comme il est dit dans Jean, chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Mais un dans la pluralité. L'homme et la femme sont distincts, sans fusion ou confusion. Alors, ce terme veut dire quoi, sans fusion ou confusion? Ça veut dire que il n'y a pas de fusion, il n'y a pas une seule personne, mais bien une pluralité de personnes. Il y a bien une pluralité. Vous savez qu'il y a, des sectes, notamment je pense au branhamisme, qui disent, sectes chrétiennes, hein, qui disent non, la Trinité, c'est pas biblique. Il y a un seul Dieu, mais qui joue plusieurs rôles. Comme un acteur de cinéma, tantôt il joue tel rôle, tantôt tel autre. Donc il y aurait une seule personne qui jouerait le rôle du Père à certains endroits, le rôle du Fils à certains endroits, et le rôle du Saint-Esprit à certains autres endroits. Évidemment, c'est une doctrine qui n'est pas du tout biblique. C'est la Trinité qui est biblique. Il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Voilà. Donc il y a bien, c'est sans fusion, et sans confusion, pourquoi sans confusion? C'est-à-dire qu'on distingue bien que là il y a le Père, et là il y a le Fils. Ils sont bel et bien distincts, tout aussi bien qu'on distingue l'homme de la femme. Quand on voit un homme et une femme, on sait bien que c'est un homme. Et là, c'est une femme. Et justement, c'est ça que l'apôtre Paul veut combattre. Il ne faut pas dénaturer ce que Dieu a créé. Il faut bien qu'on distingue les deux genres. Ensuite, il y a aussi une question de priorité dans les rôles. La femme est soumise à l'homme dans le temps présent, c'est-à-dire tant qu'on est sur terre. Comme le Fils est soumis au Père, mais là, de toute éternité. Le Fils, de toute éternité, est soumis au Père. Et donc, il y a une comparaison, un type, un exemple dans le couple homme-femme. Et il y a là, nous avons là, un exemple de l'union de Christ avec Dieu. Ah, si bien que si, bon, moi je peux parler, tu as beau parler, tu es un homme, mais une femme, l'homme aussi c'est pareil, hein, on en parlera une autre fois, mais une femme qui désobéirait à cette instruction, donc de cette séparation, cette distinction, ces rôles qui sont distincts, en fait, dénature par là même l'image de l'union de Christ avec Dieu, d'où le chapitre D. Nous avons à respecter des principes fondamentaux. Au vu du tableau que nous venons de voir, il y a au moins quatre principes fondamentaux. Le premier principe, nous devons respecter le rôle de chacun. Tout comme dans la Trinité, les rôles de chacun sont bien déterminés. Ensuite, nous n'avons pas à dénaturer, c'est-à-dire pas de mélange de genre, quelque chose qui est à la mode aujourd'hui. Donc, nous devons distinguer, faire une distinction entre l'homme et la femme. À l'époque de l'église de Corinthe, c'était la femme portait donc quelque chose sur la tête. De notre époque, je ne sais pas comment, mais on doit être en mesure de distinguer l'homme et la femme, pas de mélange de genre. Troisième point, il y a une interdépendance mutuelle. Nous ne pouvons pas mépriser Les hommes ne peuvent pas se permettre de mépriser leur frère, leur soeur en Christ, de même que les femmes ne peuvent pas mépriser leur frère en Christ. Donc une interdépendance. Ensuite, il y a aussi dans l'Église quelque chose de très important, au-delà de la question du voile. Nous devons avoir quand même cette notion de l'ordre et de la bienséance à l'intérieur de l'Église. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et un Dieu de bienséance. N'oublions pas que les anges nous regardent. Si nous rejetons les principes fondamentaux, nous altérons l'image de l'union de Christ avec Dieu. Alors, comment réagir par rapport aux frères et sœurs qui ont une compréhension différente? C'est ce que je veux ressouligner encore une fois. Nous ne devons pas scandaliser nos frères et sœurs qui ont une position différente. Nous ne devons pas leur imposer notre façon de voir parce que nous avons la conviction profonde que ce n'est pas une question fondamentalement importante. Donc, respect, tout comme pour les viandes sacrifiées aux idoles, nous n'avons pas le droit de scandaliser nos frères et sœurs en Christ. Donc, si vraiment il y a quelque chose à retenir, c'est bien cette comparaison ou cette représentation du couple homme-femme comme une image de l'union de Christ avec Dieu et ces principes fondamentaux que nous ferions bien d'observer. Voilà, donc, pour cette question. Alors, j'avais prévu quelque chose de sur la dernière partie, c'est-à-dire le repas du Seigneur. Mais, qu'est-ce qu'on fait?
La prochaine fois, madame.
La prochaine fois.
Monsieur.
Excusez-moi, mais... Vraiment, j'ai... C'est un peu ma faute, parce que... J'ai voulu vraiment me suis posé la question parce que c'est quelque chose de tellement d'actualité que je ne voulais pas escamoter les choses. Voilà. Donc vraiment, excusez-moi, pardonnez-moi si ça a été vraiment trop fastidieux, trop long, trop. Mais les choses, je crois, ont été dites, elles sont claires. Les positions des uns et des autres ont été expliquées. Et il en est ainsi lorsque, dans la parole de Dieu, il y a des questions difficiles, et surtout des questions qui divisent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des questions qui divisent. Et lorsqu'une question divise, nous devons vraiment, avec le plus grand sérieux du monde, aller en profondeur des choses, mais surtout ne pas mépriser ou juger nos frères et sœurs qui ont une compréhension différente sur des sujets que nous jugeons de moindre importance. Évidemment, quelqu'un qui viendrait nous soutenir la doctrine du salut par les œuvres, évidemment, ça, non, pas du tout. La question sur le repas du Seigneur de la transubstantiation, comme quoi le pain n'a que... ce n'est pas du pain, mais c'est réellement le corps de Christ. Le vin, ce n'est pas du vin, mais c'est réellement le sang de Christ. Là, non. On dit non, non. On n'est pas d'accord et on n'enseigne pas ça dans notre Église. Donc, une telle personne, je crois qu'il n'y aurait qu'un choix. Ou bien vous vous soumettez à la doctrine de l'Église, ou bien vous partez. Parce que c'est une question tellement importante. Mais sur le voile, notamment, non. Franchement, ne quittez pas le 316 boulevard de la paix à cause de votre position sur le voile. Non, pas du tout. Pas du tout. Soyez la bienvenue chez vous. Donc, on va terminer là. Alors, je prendrai peut-être, la prochaine fois, je ferai peut-être une première partie sur le repas du Seigneur et peut-être tu feras une introduction.
On verra, oui. On verra.
Oui, on verra.
Oui, oui. On va s'arranger.
Vous êtes d'accord? Non, mais parfois, il y a des moments comme ça où on ne peut pas faire autrement.
C'est sûr.
Donc, merci. Est-ce que quelqu'un veut voudrais rajouter quelque chose, il nous reste une minute. Une.
Moi, j'ai un petit témoignage en tant que femme.
Oui.
Voilà. J'en ai discuté avec la semaine dernière avec Valérie et Daniel quand on est rentrés de l'étude. Mmh. Et en fait, une des premières choses, personne ne m'avait dit de le faire. Personne de l'église, quand je suis arrivée dans l'église, personne ne m'a dit bah, tu dois t'habiller comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, au moment de ma conversion, une des premières choses que j'ai réalisées, c'est dit non, il ne faut plus que je m'habille comme avant. Mais je pense que au moment de ma conversion, j'ai senti, j'ai eu la conviction qu'il fallait que je m'habille, que j'évite certains vêtements, que je m'habille d'une manière plus sobre, moins aguichante, moins... voilà. Mais personne ne me l'a dit dans l'église. C'est vraiment, je pense que le Saint-Esprit a œuvré pour me... voilà. Donc, la bienséance de l'ordre, voilà. Mm-hmm. Alors n'hésitez pas à me dire si un jour je suis mal habillée. Hein.
C'est voyant. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter autre chose? On va donc prier pour continuer. Donc, si quelqu'un veut bien prier.
Père, merci pour cette liberté que tu nous donnes de parler de toi et de venir à toi librement. Merci Père pour ta parole qui est vivante et agissante dans nos vies. Merci parce que tu nous donnes de la vivre pleinement. Et merci de nous ouvrir encore les yeux de notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions pratiquer et puissions aussi avoir le discernement de ta parole, Seigneur, du Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, équipe-nous, Seigneur, et aide-nous à t'obéir en toutes circonstances, Seigneur, du Tout-Puissant. Nous te remercions pour ce moment, nous te bénissons et nous prions que nos départs, notre rentrée puissent bien se dérouler. Et merci pour nos familles, Père. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Amen.